En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
En 2006, l'Académie des sciences morales et politiques a retenu le thème de la justice comme cadre de réflexion de ses séances hebdomadaires. Le 2 octobre 2006, elle invitait à s'exprimer le recteur émérite de l'Institut catholique de Paris, Mgr Patrick Valdrini, sur le sujet « La justice de l'Église ».
Faut-il tenir pour vrai cette affirmation parue dans un éditorial de 1977 de la revue Concilium consacrée au procès canonique ? Le jugement dans l'Église est un ministère silencieux et sans panache. À la différence du prédicateur, du liturgiste, de l'organisateur ou du grand administrateur, le juge dans l'Église s'adonne à sa tâche, loin des regards, seul avec Dieu. Si on limite sa force évocatrice à l'époque moderne, en oubliant ce que fut la justice ecclésiastique dans le passé, pour une part, cette affirmation est vraie. Elle illustre un fait. L'organisation judiciaire de l'Église catholique est peu connue, sauf des spécialistes, des connaisseurs. Elle est rarement présentée dans les publications à large diffusion, sauf à l'occasion de procédures de nullité de mariage de personnalité ou d'affaires mêlant justice d'État et justice d'Église, comme le fut le cas de la perquisition de l'officialité Le Lion, dont s'est plaint publiquement le cardinal Billet, ou malheureusement dans les affaires pénales de prêtres pédophiles quand on évoque de possibles procès canoniques. Mais faut-il dire que le juge ecclésiastique est seul avec Dieu ? Certes, on attend d'un juge de l'Église une attitude exemplaire, une éthique, comme on aime à dire aujourd'hui, car si justice il y a dans l'Église, elle doit être un modèle. Mais parler ainsi est trop insister sur le jugement lui-même porté par un homme investi d'une fonction publique ecclésiale, juge, prêtre ou laïque, car des laïcs peuvent être juges, et peu sur l'ensemble des procédures ou actes judiciaires qui conduisent un tribunal à prendre une décision, comme l'on dit dans le canon 1612, post divinis nominis invocatione, après l'invocation du nom de Dieu. Le droit canonique, dans un de ses livres, présente un ensemble d'actes de procédure à suivre, actes quelquefois originaux, quelquefois identiques à ceux que l'on trouve dans tout système juridique, désireux d'aider celui ou ceux qui prononcent un jugement à dire le juste, au moins dans ce cas-là. Cette procédure ou ces procédures sont ceux de tribunaux hiérarchisés aux compétences diverses créés dans tous les territoires où l'Église est présente et à Rome, où réside le pontife romain, dont la primauté trouve là aussi une expression. Nous venons de le mentionner, un livre entier du droit canonique est consacré au système des procès, à côté de ceux qui présentent une législation spécifique sur les activités propres de l'Église catholique, son organisation, le domaine des sacrements, son rôle magistériel, son droit des sanctions. Issus de textes anciens, fait de législation conciliaire, papale, synodale, enrichi de travaux de doctrine dont certains ont marqué l'histoire générale des procédures, le livre, le De Processibus ou De Processibus du code de 1983, dit nouveau code, même simplifié au regard des règles qui s'appliquaient avant, ressort comme un code de procédure régissant les actions de membres d'une société juridique, c'est-à-dire organisée par du droit, et déclarant sa capacité à connaître, je cite, « de droit propre et exclusif, les causes qui la regardent ». Les évêques du synode de 1967, qui présentèrent des principes de révision du vieux code de 1917, l'ont voulu ainsi. Le Concile Vatican II pouvait être un dépassement de l'ecclésiologie dite « de societas juridicae perfecta, à l'image des États, qui avaient organisé la pensée juridique de l'Église pendant 2 siècles au moins, on garderait la sécurité juridique de procédures qui ont fait leurs preuves durant les siècles passés, et on les retravaillerait en les adaptant aux nécessités d'un monde changé, car on pensait que cette manière de faire garantissait une justice, tant dans les rapports entre les membres de l'Église qu'entre ceux, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, de ceux qui gouvernent et ceux qui appliquent leurs décisions. Ce synode déclarait « Il ne suffit pas que règne dans notre droit le principe de la défense des droits, il faut aussi reconnaître des droits subjectifs, véritables, sans lesquels il n'existe pas de vraie ordinatio juridica societatis », et il proposait le maintien des procédures existantes et qu'en plus soient introduits des recours propres à garantir la protection de ces droits contre les abus de la part de personnes qui gouvernent. Non seulement on reconnaissait la tradition de résolution des conflits au sein de tribunaux, mais on souhaitait en augmenter le nombre. Ce fait mérite d'être noté tant il est méconnu. Peut-on parler de justice de l'Église sans évoquer l'idée même de justice dans l'Église ? Nous parlions de modèle à propos des procédures. N'en faut-il pas parler, usant du terme justice comme élément essentiel d'une communauté dont l'existence et l'action se fondent sur l'appel à transformer une vie de pécheur en vie de personne juste ? Le dernier canon du Code ramasse en une formule brève la finalité de l'activité de l'Église, disant que celui qui gouverne doit se référer au principe de l'équité canonique et avoir présent le salut des personnes, le salut des âmes, qui doit être toujours la loi suprême dans l'Église. L'Église, au premier siècle, a dû vivre rudement cette règle supérieure, à la fois habitée de paroles du Christ encore vives dans les esprits et très vite gênée par les contraintes de vie communautaire. On ne peut oublier en effet les paroles évangéliques sur la défense de juger, l'obligation de pardonner sans limite ou de corriger le frère avant de le contraindre, paroles sur la nécessaire réconciliation avant le dépôt d'offrande sur l'autel, paroles aussi de jeunes apôtres voulant créer des communautés, lieux d'eschatologie, en demandant aux membres de transformer leurs relations et agir à l'égard des autres. Mais on sait que Paul, l'apôtre, a dû résoudre des conflits. Au moins, demandait-il qu'on traite les problèmes déjà entre chrétiens, car il n'est pas bon de porter des différends devant des juges païens. Les conflits ne pouvaient se résoudre seulement dans le charisme. Dès les premiers temps de l'Église, on verra des évêques exercer un ministère de justice, déjà une juridiction, dans des institutions devant dire le juste et trancher des conflits. Ainsi le montre très tôt la didascalie des apôtres au IIe siècle après Jésus-Christ, qui définit comment doit s'exercer le règlement des conflits, une mission donnée par Dieu à l'évêque comme vicarius Christi. C'est là que commence l'histoire de la justice dans l'Église, devenue très vite justice de l'Église quand les sociétés s'appuyèrent sur elle, de services reconnus en conflit. L'histoire aujourd'hui nous conduit à ce canon du Code qui détermine le champ d'activité, d'application de l'activité judiciaire de l'Église, connaître des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes, et de la violation de lois ecclésiastiques. La première clé du système judiciaire ecclésiastique est l'évêque. Ajoutons même l'évêque diocésain. L'organisation judiciaire de l'Église est fondée sur ce successeur des apôtres à qui on confie une portion du peuple de Dieu. Faut-il rappeler que l'Église catholique est faite d'un ensemble de diocèses ou communautés équiparées qui ont une finalité ecclésiologique reçue dès leur constitution. Sur un territoire, car cet élément de constitution des diocèses est traditionnel, une communauté d'hommes aura à vivre de la vie nouvelle apportée par le Christ sous la conduite du pasteur qui lui est donné, l'évêque. Dans des termes patristiques, mis en valeur par la théologie protestante et repris par le Concile Vatican II, le Code décrit les trois fonctions de l'évêque, celle d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Et c'est cette dernière qui lui donne le droit de voir, de porter des lois particulières pour son diocèse, de les appliquer par des actes que le droit canonique définit aussi comme administratifs, et de porter des jugements. Le Code a eu recours à la division tripartite de Locke et de Montesquieu en pouvoir législatif, administratif et judiciaire, sans pour autant autoriser une utilisation du principe ou une adoption du principe de séparation des pouvoirs. Dans le droit canonique, la distinction est utilisée en termes pratiques pour distinguer des domaines d'action d'un pouvoir unique remis à l'évêque pour gouverner son diocèse. Dans un diocèse, le législateur est l'administrateur et il est en même temps le juge. Mais voici le tempérament de ce principe d'unicité des pouvoirs. Certes, l'évêque pourrait exercer sa fonction de juge lui-même ou éventuellement en déléguant une personne pour connaître d'une cause, mais sauf pour exiguïté d'un diocèse ou petit nombre de causes, il est contraint de constituer un office canonique, c'est-à-dire une fonction officielle, de vicaire judiciaire, ou selon le terme utilisé avant le Code de 83, d'official, qui est un prêtre qui juge en son nom. La constitution d'un tel office est obligatoire, ce qui n'est pas sans poser de problème en France, en raison du moindre nombre de prêtres. Et c'est pourquoi on a eu recours à la constitution de tribunaux interdiocésains ou de tribunaux régionaux, pratique qui permet de concentrer les efforts en un lieu en garantissant une compétence que ne pourrait pas assurer chaque diocèse laissé seul devant l'obligation de créer un tribunal diocésain. D'autant plus que le droit canonique connaît l'architecture en différentes instances. La sentence d'un tribunal de première instance, diocésain ou interdiocésain ou régional, peut être appelée devant un tribunal de seconde instance. En général, le tribunal de seconde instance a son siège dans le diocèse de l'archevêque, dont les autres sont suffragants. Mais la sentence du tribunal de l'archevêque peut être contestée en appel devant un autre tribunal diocésain qui est dûment désigné et qui devient un tribunal d'appel. Et de la sorte, par un système circulaire, sur un territoire défini, par exemple la France, le système canonique permet qu'un tribunal de première instance juge en appel des sentences prononcées par le tribunal d'un autre diocèse ou d'autres diocèses, sauf pour la province d'Île-de-France, car Paris est tribunal de première instance et Versailles, tribunal de seconde instance. Cette règle s'applique alors que doit être sauf le principe selon lequel on peut à tout moment s'adresser au pape pour qu'il connaisse la cause en raison de la primauté qu'il reçoit sur l'Église. Et dans ce cas, sauf à créer un tribunal spécial, ce qui pourrait toujours se faire, c'est la rote romaine qui connaîtrait de cette cause. Ce tribunal est connu, très ancien. Il a reçu son premier règlement en 1331 du pape Jean XXII. Il est composé de juges spécialisés, une vingtaine, qui jugent en première instance des causes qui leur sont réservées, ainsi par exemple des causes qui concernent les évêques ou des causes que leur remet le pontife romain. En seconde instance, des causes qui ont été jugées par des tribunaux inférieurs, car une personne peut toujours, de la première instance, en appeler à la rote. Ou en troisième instance, car le droit canonique connaît le principe suivant. Dans les causes touchant le statut des personnes, par exemple les nullités de mariage ou les nullités d'ordination, la chose jugée est toujours acquise après deux sentences conformes, ce qui veut dire qu'une troisième instance est souvent le cas. Donc une troisième instance serait nécessaire si les instances étaient contraires. À cette architecture de juridiction s'ajoute un tribunal romain singulier qui tout à l'heure a été nommé, la signature apostolique, lui aussi très ancien, qui juge au nom du pape. Alors on définit souvent d'une manière sommaire et peut-être contestable sa compétence, nous y reviendrons, cette signature apostolique comme l'équivalent d'une cour de cassation, d'un conseil d'État et d'un ministère de la justice. Nous y reviendrons car on pourrait contester ce fait. Enfin, je mentionne simplement, sans m'y arrêter, l'existence originale d'un tribunal romain spécialisé dans le fort interne, la pénitencerie apostolique. Quelle cause peut recevoir un tribunal diocésain ? Il existe plusieurs types de causes sur lesquelles il peut porter un jugement. D'abord, des causes contentieuses peuvent lui être présentées par des membres du diocèse qui réclament la reconnaissance de leurs droits. Exemple, la réputation, le droit au rite, qui reprend un peu de service actuellement, droit de posséder, droit d'association, et éventuellement une réparation des dommages causés, non-respect des contrats. Dans la logique du code de droit canonique, ces droits peuvent être protégés et sont protégés devant un tribunal diocésain. Mais une question s'impose. Les fidèles recourent-ils au tribunal diocésain pour ce genre de cause? La réponse, évidemment, dépend du pays où l'on se trouve. En France, la plupart du temps, les fidèles s'adressent à une juridiction civile. Par méconnaissance, peut-être, mais surtout parce qu'ils ne font pas confiance à la préparation des juges ecclésiastiques sur ces matières, ou plus souvent veulent avoir la garantie de l'application de la sentence. En ce qui concerne la situation française, on constate même l'absence quasi totale de ce genre de causes présentées devant des juridictions ecclésiastiques. Et j'ai regardé les statistiques de la ROTE sur 10 ans, je m'aperçois qu'il y a très très peu de causes de ce genre qui sont présentées à la ROTE. En effet, le tribunal diocésain jugeant une cause contentieuse de ce genre ne peut utiliser des moyens de coercition publique pour assurer l'application de sa décision. Alors, posons-nous une question, qu'adviendrait-il si un fidèle ayant accepté de présenter sa requête devant un tribunal diocésain renie cette démarche et refuse d'appliquer la sentence? Une logique, il rentre dans une logique et tout à coup, il n'applique plus. La réponse à cette question illustre la fragilité de l'activité judiciaire de l'Église, car dans ce cas, seules des sanctions touchant le statut personnel de ce fidèle pourraient être envisagées, fondées sur le caractère illogique de son acte au regard de l'adhésion qu'il a donnée et qu'il donne à l'Église. Et dès lors, et je dis bien en toute hypothèse, car ma connaissance, je ne l'ai pour ma part jamais vu appliquer, en toute hypothèse, un fidèle pourrait voir son statut diminué sous forme de sanctions personnelles de type pénal, ainsi s'il s'agit d'un prêtre, une suspense de ses capacités d'agir comme prêtre, s'il s'agit d'un laïc, une sentence d'excommunication ou d'interdit, et est prévu d'une manière générale dans le code au canon 1371, est puni d'une juste peine une personne qui n'obéit pas au siège apostolique, au supérieur qui lui commande légitimement de faire quelque chose après monition. Donc nous voyons comment dans la réalité peut fonctionner ce genre de tribunal. On constate que les tribunaux diocésains, et ainsi dans les pays européens, sont spécialisés en fait dans les causes matrimoniales de nullité de mariage, un type de jugement qui est prévu dans le code comme objet de procès, puisque le canon 1400 parle de déclaration de fait juridique, ou encore dans des déclarations de non-consommation du mariage qui redonnent la liberté de contracter un nouveau mariage, ou rarement, ce qui est possible dans le code, des causes de séparation des époux, très rarement utilisées. De fait, la plupart des actions devant les tribunaux ecclésiastiques, pas seulement diocésains, mais aussi à la ROTE, viennent de fidèles qui font constater la nullité de leur mariage en présentant un chef de nullité du contrat réalisé entre eux lors de l'échange des consentements. Là encore, au moins pour la France, on retrouve la question d'autonomie réduite de l'organisation judiciaire de l'Église, car cette procédure suit généralement une sentence, procédure de nullité, une sentence ayant déjà prononcé un divorce, lequel aura permis de définir les problèmes de garde d'enfants ainsi que les conséquences patrimoniales de la séparation. Mais de fait, ce n'est pas inscrit dans les textes. On pourrait imaginer que cela ne se fasse pas. C'est une règle, évidemment, pratique. Je signale simplement qu'il y a un cas où ça ne s'est pas fait, c'est à Nouméa, où il y a eu un problème, car le juge, au civil, entre guillemets, au civil, comme nous disons lorsque nous parlons canonique, a voulu saisir les pièces de l'officialité, effectivement, parce qu'il y avait une procédure à la fois au civil et à la fois au canonique. Mais il faut dire que dans ce domaine, la distinction entre les pays est aussi à noter, car ce n'est pas le cas dans les pays où un concordat donne des effets civils à une sentence ecclésiastique. Par exemple, en Italie ou en Espagne, la sentence d'une tribunal diocésain est reconnue par l'État et selon une procédure, et il y a donc ce que nous appelons nous-mêmes des effets civils. Dans le champ qui leur est propre, les juridictions ecclésiastiques ont acquis une véritable compétence en la matière, avec des juges bien préparés, prêtres et laïcs, ayant en principe au moins une licence en droit canonique. Une jurisprudence s'est élaborée, qui est en partie publiée, mais qui n'a pas de statut particulier, contrairement à la jurisprudence de la ROTE romaine. Car celle-ci, la jurisprudence de la ROTE, a une fonction régulatrice en droit canonique, et elle a une autorité. Nous évoquions la signature apostolique Puyo, disant que l'on comparait souvent ce tribunal à une cour de cassation. C'est une erreur. On le fait parce que l'on peut contester la nullité d'une sentence de la rote devant la signature apostolique, par exemple récuser des juges, ou éventuellement exiger la restitutio in integrum, lorsqu'il y a eu une grave injustice venant, par exemple, de méconnaissances de faits qui ont été découverts après la chose jugée, à la suite de la sentence. Mais la fonction unificatrice de la jurisprudence est exercée par la rote, ou on pourrait dire la fonction unificatrice de la jurisprudence exercée par une juridiction comme la Cour de cassation française est de fait exercée par la rote, dont la juridiction est une référence pour les tribunaux. C'est elle qui permet d'unifier cette jurisprudence. Et c'est pourquoi cette jurisprudence rotale est publiée régulièrement, en latin d'ailleurs, et on notera que quand on regarde la jurisprudence de la rote, que la plupart des sentences sont, comme je l'ai dit, matrimoniales. La procédure suivie pour connaître des causes matrimoniales est dite spéciale. Il y a une procédure spéciale. Elle s'inspire de la procédure ordinaire, comme le font aussi d'autres procès spéciaux qui conduisent à connaître des causes de nullité d'ordination, quelquefois. Elles sont assez rares, mais elles existent. Et des causes pénales, des sanctions, et qui touchent généralement des clercs. Et ces causes pénales sont l'application du droit des sanctions contenu dans le livre spécifique du code qu'on appelait autrefois le droit pénal. Elles peuvent être portées par voie administrative, comme par exemple ce qui était arrivé pour l'excommunication de Mgr Lefebvre, ou celle qui est récente, puisqu'elle date d'une semaine, d'un évêque africain, où les sentences ou les excommunications sont portées par voie judiciaire. Donc c'est à l'évêque diocésain de choisir une des deux voies après une enquête préalable, ou pour des cas réservés, car le Saint-Siège réserve des cas, pour des délits contre les mœurs, pour des délits concernant le sacrement de pénitence. Et donc, pour des cas réservés, il faut s'adresser à la congrégation pour la doctrine de la foi de la Curie romaine, et dans ce cas-là, c'est la congrégation qui décide ou de porter une sentence elle-même, ou de renvoyer à un tribunal diocésain. Donc c'est elle qui choisit la voie. On a vu d'ailleurs cette réserve de cas aussitôt après les problèmes de pédophilie, notamment, qui ont touché les diocèses américains. Pour terminer, il nous reste à noter le système judiciaire canonique des recours administratifs, car de fait, le droit canonique, à l'image des États modernes, connaît un système de recours de ce genre et une juridiction administrative, comme, et d'ailleurs nous allons le montrer, le système s'est peu développé. C'est le pape Paul VI qui a introduit dans l'Église catholique le système actuel, en réformant sa curie romaine en 1967. Il a créé un tribunal administratif qui puisse recevoir des plaintes contre des actes administratifs singuliers, c'est-à-dire destinés à des personnes physiques et juridiques. Un clerc, des laïcs, mais aussi des associations, des groupes, des communautés. Ce tribunal est une section de la signature apostolique qui a vu ainsi sa compétence s'enrichir. On peut lui soumettre tous les actes qui émanent d'une personne titulaire du pouvoir de gouvernement, qu'elle soit à l'échelon diocésain, comme un évêque, ou à l'échelon universel, comme une congrégation romaine, par exemple la révocation d'une personne, claire ou laïque, d'une charge officielle. On révoque, on la renvoie. Ou la suppression, ou même la transformation d'une paroisse. Suppression aussi d'une association. Comme il arrive assez souvent des associations qui ne sont pas en communion, par exemple, tant par ce qu'elles disent que par ce qu'elles font avec l'Église catholique. Seuls les actes administratifs portés par le pape ne sont pas soumis à cette juridiction. S'il s'agit d'un acte d'un évêque diocésain, avant d'arriver à l'échelon de la juridiction du tribunal, il est nécessaire de s'être adressé en premier lieu à l'auteur de l'acte pour réexamen, puis d'avoir présenté sa plainte auprès d'une congrégation de la curie romaine par un recours hiérarchique. Donc, avant d'arriver au tribunal, il faut avoir déjà épuisé la voie des recours hiérarchiques, ce qui est quand même peut allonger les délais. Ainsi, prenons le cas d'un évêque diocésain qui supprimerait une association de fidèles, c'est ce qu'on voit le plus actuellement, pour un motif de discipline ou de rapport aux éléments essentiels d'unité de l'Église catholique. Cette association aura à suivre la chaîne de ses recours qui la conduira auprès du Conseil pontifical pour les laïcs dont elle dépend. Et si elle a encore un motif de plainte, elle pourra seulement présenter un recours contentieux administratif devant la section de la signature apostolique. Ce tribunal est composé de cardinaux et donne une décision qui n'est pas soumise à appel, un peu contestée. Cette dernière peut soit annuler l'acte administratif, soit, si la personne le demande, décider une réparation des dommages causés. Alors, je le dis tout de suite, les cas présentés chaque année au tribunal de section apostolique ne sont pas nombreux. Sans doute, l'ITER, le chemin de la plainte, est-il long ? C'est pourquoi, d'ailleurs, les schémas du code que nous avons, qui a été promulgué en 1983, avaient prévu la constitution de tribunaux locaux, c'est-à-dire à l'échelon de chaque conférence des évêques, par exemple, un pour la France. Mais cette décision n'a pas été retenue, de sorte que le système ne connaît qu'un seul tribunal administratif pour toute l'Église catholique, ce qui est quand même très peu. Alors les motifs qui expliquent que l'on n'ait pas multiplié les tribunaux administratifs sont assez intéressants à connaître parce qu'ils traduisent une conception justement de la justice de l'Église. Certainement qu'il y a eu une raison technique, parce qu'il y a déjà des difficultés à constituer de vrais tribunaux diocésains par manque de personnel, mais surtout on a évoqué la nécessité de développer des procédures de médiation plutôt qu'une juridiction à l'image des systèmes juridictionnels étatiques. Et ceci a été un vrai débat entre canonistes. Je veux dire que j'étais à l'époque jeune canoniste. Je faisais mes études quand je lisais les articles des canonistes. En fait, étaient en cause diverses conceptions de l'Église. Il y a ceux qui contestaient le développement du système juridictionnel dont j'ai parlé, parce qu'il voulait écarter l'ecclésiologie considérée comme dépassée de l'ecclésiologie que l'on appelait de société juridiquement parfaite, c'est-à-dire d'État, concept qui s'était imposé à l'Église au moment des combats contre les États modernes, lorsqu'elle avait voulu affirmer sa souveraineté et sa liberté. C'était affirmé comme une souveraineté face aux États souverains. Et on opposait à cette pensée, jugée trop politique et trop juridique, une conception plus théologique, d'ailleurs empruntée au Concile Vatican II, d'Église communion de fidèles. Donc si l'Église est communion, elle doit avoir des moyens de résolution qui expriment sa nature propre. Dès lors, il fut proposé de développer des procédures de conciliation, de médiation, sans que les modèles soient tirés des systèmes étatiques. C'est un grand débat. Et le code actuel reflète un débat non tranché entre les partisans de cette thèse et ceux qui considéraient que la meilleure manière de réparer une communion blessée par un conflit était d'une part de développer la tradition judiciaire de l'Église catholique qui a toujours connu un système juridictionnel parallèle ou équivalent au système des sociétés politiques et d'autre part de garantir une sécurité juridique dans la résolution des conflits par le respect d'une procédure juridictionnelle classique. Donc on a eu là deux approches. Et dans la partie qu'il consacre à la résolution des conflits administratifs, le Code reprend les deux tendances de ce débat, que j'ai d'ailleurs plus ou moins déjà exposées. D'une part, il présente le parcours déjà évoqué d'un recours qui passe par le chemin du recours gracieux, du recours hiérarchique, puis du recours contentieux administratif. Ensuite, il donne la possibilité aux parties de s'adresser à un médiateur, voire à un conseil de médiation. Et ce canon a été mis en œuvre récemment par beaucoup de diocèses dans l'Église catholique, notamment des diocèses français qui ont créé des conseils de médiation, mais des conseils stables, pas seulement lorsqu'il y a un conflit. On le crée comme on crée un tribunal diocésain avant que des conflits ne lui soient présentés. On a créé des conseils de médiation stables, c'est-à-dire donc avant que des conflits ne naissent et ne lui soient présentés. Pourquoi ? Eh bien, en vue de connaître des conflits, avec bien sûr une compétence limitée à la possibilité de faire des propositions qui vident un contentieux. Et cette création toute récente et qui a ouvert une voie, j'allais dire relativement nouvelle, puisque il a toujours été possible de prendre des médiateurs, des arbitres, etc. Sauf que dans notre code, nous avons là une institutionnalisation nouvelle de cette possibilité. Cette création est symbolique d'un système qui cherche à développer des éléments d'originalité, comme vous l'avez senti ou non. Et en premier lieu, celui-ci, que l'on sent d'ailleurs plus dans la doctrine que dans le code lui-même, l'entrée d'un conflit au tribunal est un échec, car elle signifie que des moyens offerts pour sa résolution n'ont pas permis de rétablir la communion brisée. Et à ce point, cette considération que je fais ne concerne pas seulement les conflits administratifs dont nous venons de parler, mais tous les types de conflits que connaît le système judiciaire ecclésiastique. Et cette approche peut être facilement fondée en recourant au code de droit canonique. L'idée selon laquelle l'utilisation de la voie judiciaire est un échec apparaît dans un fameux canon déclarant que tous les fidèles, et en premier lieu les évêques, doivent veiller avec soin à ce que les litiges soient évités dans le peuple de Dieu et se résolvent au plus vite d'une manière pacifique. Ça, c'est inscrit au canon 1446. Et on sait que la voie de la conciliation, de la transaction et de la médiation est toujours ouverte à quelque moment que ce soit de l'écoulement d'un procès. Mais plus encore, cette voie de connaissance pacifique des conflits apparaît comme un devoir dans la logique de l'appartenance à l'Église dont l'exercice est contrarié par les oppositions internes. C'est intéressant de noter que le canon 1446 présente ça comme un devoir, ce qui veut dire que cela renvoie à la logique, je dirais, de l'appartenance à l'Église. Puisqu'il appartient à l'Église, il doit aussi une logique en cas de conflit, une logique qui doit s'exprimer. Le code actuel semble avoir renforcé cette tendance. Ainsi, a-t-il introduit une procédure orale pour qu'un juge puisse connaître plus rapidement d'un contentieux entre privés ? Pour la justice administrative, on relève la rapidité des délais qui organisent la voie des recours, au moins dans les textes. En peu de temps, un recours administratif doit avoir trouvé une réponse de la part d'une congrégation de la Curie romaine, 3 mois. Ceci illustre certainement, à mon avis, un élément essentiel du système judiciaire de l'Église catholique. On doit vite réconcilier des personnes dont la situation conflictuelle est une entrave dans leur vie de chrétien. Ça, c'est, semble-t-il, un des points essentiel du code. Cette place centrale de la personne est une donnée assez évidente qui ressort de la tradition canonique. Ainsi, je terminerai par là, mais revenant au système juridictionnel de résolution des conflits administratifs, nous pourrions trouver une confirmation de cette vue dans le fait que ce système ne permet pas de contester tous les actes administratifs comme on le fait dans les systèmes juridictionnels. Seuls les actes administratifs singuliers peuvent l'être. C'est-à-dire qu'au moins dans l'architecture juridique, un acte administratif général ne peut pas être contesté devant la juridiction administrative. Donc seulement les actes administratifs singuliers, ceux qui touchent la personne, ce qui d'ailleurs a été contesté par un certain nombre de canonistes, mais ça n'a pas changé. On veut assurer la justice d'un acte et réparer une situation juridique personnelle blessée. Et c'est par ce biais, d'ailleurs, que se feront le contrôle nécessaire de la légalité à laquelle est attachée une société juridique, et la moralisation de l'exercice du pouvoir. C'est par ce biais-là. Une question de fond se pose lorsque on considère toute cette architecture et qui peut-être n'a pas de réponse franche. Que recherche le droit canonique par son système judiciaire ? Veut-il protéger l'ordre interne et la loi qui l'assure ? Veut-il protéger l'ordre interne et la loi qui l'assure ? Ce but ne peut lui être étranger, son droit est celui d'une société juridique, mais selon nous, il le fait en réglant prioritairement les problèmes de personnes qui doivent vivre en paix avec Dieu et en paix entre eux. La Bible, entre parenthèses, jamais citée dans le droit canonique, en est sûrement la source. Et cette parole, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et sans risque, on pourrait appliquer cette sentence à la loi dont symboliquement le système judiciaire canonique veut qu'elle soit faite pour l'homme.
Vous venez d'entendre la communication de Mgr Patrick Valdrini, recteur émérite de l'Institut catholique de Paris, en séance de l'Académie des sciences morales et politiques le 2 octobre 2006 sur le thème de la justice de l'Église.